Il est 23h46 sur Europe 1 et nous accueillons Magda au 3921. Bonsoir Magda.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
J'ai un peu le trac parce que bon, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup.
Ne vous inquiétez pas, ça va aller.
J'ai fait un petit résumé à Natacha, mais c'est très compliqué mon histoire. Alors je vais peut-être parler au début justement du précédent qui parlait de l'homosexualité.
Oui.
Sur les idéologies et sur la religion. En fait, moi, j'ai été complètement formatée parce que déjà, ma mère était aristocrate.
Oui.
Et mon père aussi, mais formatée dans des idéologies très, très fermées.
Quelle idéologie, Magda ?
Alors, bon, c'est vrai que dans nos familles, on est très catholiques. Mon père, le problème, c'est que, enfin, j'ai toute une histoire avec mon père, puisque j'ai perdu ma mère à 3 ans, d'un accident, enfin, d'un suicide. On ne sait pas trop en République tchèque. J'ai jamais su la vérité. Pourtant, j'ai maintenant un certain âge. Je devrais le savoir peut-être par des journaux, mais en fait, on n'a jamais voulu m'en parler vraiment. Donc, ma mère était une princesse, en fait, et tchèque. Et donc, je l'ai perdue très jeune et mon père est venu me rechercher avec mon frère. J'avais 3 et 4 ans. On avait 3 et 4 ans et on est parti sur les routes pendant 5 ans. Parce qu'il a fait, il a eu un choc, probablement, et il avait beaucoup de quelques relations, et il était très idéologue, et il était enthousiaste à l'époque, et il voulait faire la jeunesse européenne avec des associations, les compagnons bâtisseurs, l'abbé Pierre, enfin tous ces mouvements, et qui étaient très beaux au départ, puisque moi j'ai rencontré l'abbé Pierre à Paris, les compagnons bâtisseurs en Autriche. On a fait tout tour d'Europe, mon père avec 2 enfants, donc on avait entre 3 et 7 ans, 7-8 ans. Donc moi j'étais privée de mère, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, donc on était comme des valises en fait, on était déposés chaque fois dans des endroits différents, on revenait jamais au même endroit. Donc, j'ai jamais eu de chambre avant que j'ai eu 15 ou 20 ans. 15 ans, disons plutôt 15 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? La scolarité, on a dû s'arrêter, oui, quand on avait 10 ans, parce qu'on n'allait pas à l'école. Et c'est mon père qui nous enseignait. Donc, en fait, mon père était le seul guide, mon seul repère en fait, puisqu'il nous a isolés en plus dans les montagnes en Suisse.
D'accord,
voilà,
donc
il y avait des petites communautés qui étaient en train de germer comme des petits champignons partout. C'était l'époque dans les années 70.
D'accord, donc voilà. c'était des communautés un peu hippies qui germaient là-bas en Suisse.
Non, des petits collèges, vous savez, des collèges privés,
oui.
Où des familles assez aisées envoyaient leurs enfants. Alors on est allé dans un collège américain où il y avait des enfants américains qui venaient justement parce qu'ils avaient fait les 400 coups chez leurs parents. Après un collège anglais, puis on est allé dans un collège français. Et après, mon père, il a voulu faire son petit collège à lui, donc un collège communautaire avec l'idée de l'Europe derrière, donc de belles idéologies. Tout ça, il y avait des très belles choses dans ce qu'il disait. Il faisait des conférences, il avait beaucoup de, comment on appelle ça, il avait une espèce de...
D'adepte.
Non, de rayonnement. Il était très...
Charismatique.
Charismatique, voilà. Oui. Alors, le problème, c'est qu'au départ, avec mon père, Donc on était très liés entre mon frère, mon père et moi, puisqu'il ne s'est pas remarié, il est resté fidèle, en fait, entre parenthèses, à ma mère, même décédée, pendant 20 ans. Mais ça a dû lui le détraquer progressivement.
Oui.
Parce que petit à petit, j'ai vu que, bon, d'abord, il a fait une crise mystique, qu'il a reporté sur moi, naturellement. Il fallait que je fasse ceci, que j'aille à la messe, que sinon, il me punissait, en fait. Et il devenait de plus en plus caractériel, parfois violent, et puis incestueux.
Incestueux.
Oui. Alors, donc, tout ça, progressivement, en me parlant de Dieu, en me faisant des grands discours.
Vous aviez quel âge à ce moment-là, lorsque, en fait, lorsque vous dites... Pardon ?
12 ans.
12 ans. Et lorsque vous me parlez de...
À 20 ans.
Vous me parlez de gestes incestueux, c'est-à-dire qu'il vous a violé ?
De 12 à 20 ans, il venait dans... Ben, ça n'a pas été au viol, parce que j'ai toujours eu peur.
Oui.
Mais ça a été toujours, il allait dans mon lit, des caresses, toucher mon corps, il fallait que je rentre, qu'il pouvait rentrer dans la salle de bain, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il m'avait mis la main dessus.
Oui.
Et j'étais isolée, puisqu'on était en plus dans les montagnes, j'étais isolée, mon frère voyait ça et en fait, il a eu peur parce qu'à 17 ans, il est parti. Il est parti aux Canaries. Enfin, il a eu peur de ce qu'il voyait, en plus de ce qu'il savait. Mais
il savait votre frère, il s'est rendu compte.
Oui, un jour, j'en ai parlé comme ça, il m'a dit je savais, mais il n'a jamais voulu que je lui en parle plus.
D'accord.
Et il est toujours dans la fuite actuellement avec moi. Il a tellement peur que je parle de tout ça, parce qu'en fait, je me suis tue. Parce qu'il y a eu d'autres choses bien aussi graves, enfin, je dirais, dans le. Parce que moi, je ne me rendais pas compte au début, vu que j'étais élevée par mon père, qui nous habillait, que je n'avais pas eu de mère du tout. Donc au début, je ne savais pas ce qui était vrai ou pas vrai, juste ou pas vrai. Alors non, je suis allée voir un prêtre et puis après une dame qui s'intéressait à moi très très. Je me suis toujours accrochée à des dames quand je les voyais, quand ils voyaient bien que j'étais complètement orpheline. Donc du coup. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas normal, parce que je savais même pas ce qui était normal et ce qui était pas normal. C'est ça qui est hallucinant.
C'est souvent le piège.
C'est toujours cloîtré dans un univers fermé, idéologique, où il y avait la culpabilité tout le temps sur ma tête, si je faisais des choses qui n'allaient pas. Alors, pour juste, parce que c'est tellement long mon histoire, pour juste dire à propos de ça et de la religion, c'est que quand j'ai eu 18 ans, naturellement je cachais tout ça, jamais j'osais dire, mais sauf que j'avais la peur au ventre, chaque fois qu'il venait dans ma chambre, j'avais la peur au ventre, et cette peur elle est restée presque plus maintenant, si, toute ma vie je pense. Parce que j'ai eu que des problèmes, que des soucis avec ma vie amoureuse.
Mais c'est normal, enfin, normal, compliqué. C'est normal. Mais
ouais.
vous me disiez à un moment, là, vous me disiez ne pas avoir été consciente de tout ce qui se passait par rapport à votre père. Qu'entendez-vous par là, en fait,
Au début, disons que ça a commencé, bon, je trouvais qu'il j'essayais de comprendre, en fait. Je sentais bien que c'était pas normal. Et j'essayais de comprendre. Mais chaque fois que ça se passait, j'essayais d'oublier. J'étais dans le déni, en fait. Je minimisais. Parce que c'était trop grave pour moi de dénoncer.
Comme souvent ça arrive, hein, Magda.
Bah oui, c'était trop grave.
Souvent, les enfants gardent le silence.
Il était directeur d'école avec des enfants sous sa coupe qui l'écoutaient, avec des parents qui avaient confié ses enfants. Comment j'allais pouvoir faire, c'était trop.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, à un moment donné, j'ai eu 18 ans, ou 20, 17, j'avais 18 ou 20 ans. Oh, plus que ça même, 20 ans, 22 ans, j'étais toujours vierge, naturellement, jusqu'à 28 ans. Et j'ai rencontré un berger parce que j'allais me promener dans les Alpes.
Oui.
En fait, c'était un saisonnier. Et il a vu que je fréquentais ce garçon. Et il m'a donné un billet de train en me disant « Maintenant, tu vas chez les Cisterciens. Je devais aller dans une abbaye cistercienne au fond des Ardennes. » J'ai pas compris. Alors, j'ai un mot qui me revient, c'est la sidération. Vous savez, d'habitude, en fait, on réagit. Mais quand on est dans un truc tellement gros, et tout le temps j'étais dans des choses plus gros que moi, enfin plus gros que... Et je sentais que c'était pas normal, oui. Mais j'obéissais. J'étais, en fait, sous influence.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc j'obéissais et même donc j'ai dû dire à ce garçon que je devais partir. On a pleuré, on était amoureux, on s'en allait très loin d'ailleurs. Et je suis partie en train. Après coup, je me dis mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu prendre le train, obéir, me retrouver dans une abbaye de cisterciens sans que ça soit de ma propre volonté.
Oui, Magda, on va faire une pause dans cette histoire.
On va
laisser passer l'info sur Europe 1, si vous le voulez bien, et on va continuer tout ça, d'accord?
Oui, oui.
À tout de suite. Minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Chers amis, vous pouvez continuer à appeler Florian et Natacha au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous envoyer vos SMS comme Marie Tam Tam qui ce soir a particulièrement apprécié Oasis. Et la musique, ça n'est pas fini, Marie Tam Tam. On en aura encore un peu dans cette libre antenne. Et puis Valérie qui commente l'histoire de Magda qui nous dit que les enfants, bien évidemment, ont besoin d'affection et pas d'autre chose, Valérie. Vous avez raison d'appuyer sur cela, bien évidemment. Magda, nous étions donc dans ce train que vous prenez, un peu sidéré, comme vous m'avez dit.
Je relate cette histoire-là parce qu'il y en a tellement, mais je vais continuer cette histoire-là pour vous montrer jusqu'où ça va. C'est que, voilà, j'ai obéi, comme je devais toujours obéir, je n'avais pas le choix. Et sinon, c'était la culpabilité, c'était tout le reste, toutes sortes de choses. Et pourtant, j'aimais mon père. C'est là le paradoxal. Et j'étais attachée comme un chien parce que j'avais que lui. Voilà. Et mon frère aussi, en fait. Et j'obéissais. Des choses complètement aberrantes. Donc, j'ai dû quitter la maison. Je me suis retrouvée dans une abbaye au fond des Ardennes. Le prêtre, en fait, qui m'a accueilli, les bonnes sœurs, elles comprenaient pas trop, parce que en général, on vient avec en groupe ou des séminaires. Et là, je me suis retrouvée toute seule dans une cellule. J'étais dans une cellule. Et je me demandais ce que je faisais là, tout simplement.
Mais... Pourquoi en fait vous vous retrouvez dans cette cellule? Parce que vous n'êtes pas avec votre berger, en fait, il ne vient pas avec vous là-bas?
Non, parce que je devais quitter mon berger et je devais aller dans une abbaye de cistercienne.
D'accord, et c'était sur ordre de votre père, ça?
Sur ordre de mon père.
D'accord, oui. Encore, d'accord.
Ben voilà, donc j'ai dit que en fait je devais obéir à tout ce qu'il me demandait. Et en fait, j'aurais pu. C'est ça, ce qui était le plus incroyable, c'est que je n'ai pas dit non. C'est que j'ai obéi en me disant que sans doute c'était pour mon bien, que s'il le disait, ça devait être pour mon bien. Et j'ai dû dire au revoir en pensant que j'allais le retrouver après.
D'accord.
Et ce berger. Et donc, il s'est passé du temps. Donc, je suis restée 3 semaines dans cette abbaye. Parce que j'avais la foi, en fait, je croyais.
Oui, bah vous baignez dedans depuis que vous étiez toute petite, donc voilà, difficile de ne pas avoir la foi, oui.
Et donc, du coup, j'ai pensé que c'était pour mon bien. Et quand je l'ai retrouvé après, en me disant qu'il allait m'attendre, alors, en fait, c'était une toute petite histoire qui débutait. Il était avec quelqu'un d'autre.
D'accord.
Il croyait plus. Donc, il y croyait plus. J'en ai jamais voulu, mais il n'y croyait plus. Et donc, après, j'ai continué. Alors, après, quand je suis rentrée chez moi, c'était un piège parce que mon père m'a demandé, il voulait que je fasse ma confirmation et que si je n'avais pas fait ma confirmation, je ne pouvais pas revenir à la maison. Donc je me retrouvais à la rue en fait, en gros.
D'accord, donc toute cette adolescence, finalement, cette enfance, cette adolescence, vous la passez sous la coupe de ce père, voilà. comme nous avons encore à peu près un quart d'heure, Magda, un quart d'heure, 20 minutes. À partir de quand vous arrivez à vous émanciper de ce père et comment?
Mais alors le souci, c'est que voilà, à cette époque-là, donc quand je suis rentrée, mon père avait rencontré une jeune fille de mon âge. Et je me suis dit, ça c'est une aubaine. J'étais très heureuse que mon père ait trouvé quelqu'un.
Quel âge avait-elle, cette jeune fille, à l'époque?
Il me laisserait tranquille.
Oui, bien sûr. Mais quel âge elle avait, cette jeune fille?
Elle avait mon âge, 24 ans.
24 ans, d'accord.
Et lui en avait 56.
D'accord.
Ils avaient 30 ans de différence.
D'accord.
Voilà. Et alors, donc, je me suis dit, ben, c'est très bien, tout ça. Comme ça, il va me laisser partir, il va me laisser tranquille. Mais en fait, ça n'a pas été le cas parce que, je suis rentrée, il fallait bien que je vive de quelque chose. J'étais complètement dépendante financièrement. Dépendance financièrement aussi parce que j'avais travaillé dans l'école et que je n'avais pas de diplôme particulier, j'avais même pas mon bac.
Et votre maman, en fait, qui, si j'ai bien compris, était une princesse, hein, donc une noble, est-ce qu'elle elle ne vous avait pas laissé quoi que ce soit, en fait? Il n'y avait pas un peu de...
Oui, alors ma grand-mère avait pu sortir dans les années 70 parce que son fils était mort à Munich parce qu'il s'était enfui du temps des communistes, parce qu'il est né sous Staline. Donc, il a pu s'enfuir et ma grand-mère donc avait une maison à Munich, une grande maison, c'était ce genre de maison à rapport, un grand immeuble en fait, comme des immeubles parisiens. Et donc, à ce moment-là, elle nous a fait un testament et elle nous a légué cette grande maison à mon frère et moi. Mais pas à mon père, c'était ma mère, en fait, ça venait de ma mère.
D'accord.
Donc, de mon frère et moi. Et à ce moment-là, c'est là où ça a été terrible. C'est que, aussi, elle est décédée. Elle nous avait mis sous curatelle d'un curateur jusqu'à notre majorité, c'était d'avoir 18, 20, 21, pour qu'on hérite au moins de cette maison, qu'on soit à l'abri. Parce qu'on était complètement, elle savait qu'on était orphelin et qu'on n'avait rien en fait, et qu'on soit à l'abri du besoin. Et avec ça, mon père, quand il s'est remarié, il nous a demandé, juste avant d'ailleurs, une procuration générale que j'ai donnée en pensant qu'il allait nous protéger. Et en fait, tout l'argent est passé sur son compte. Je n'ai jamais eu de compte, j'ai jamais pu ouvrir un compte. Et ils ont vécu 10 ans avec sa femme et ils ont élevé 2 enfants après, dessus, sans qu'ils me demandent une seule fois si j'avais un besoin ou m'envoyer même 10 euros.
C'est incroyable.
Alors là, c'était trop parce qu'ils ont pris aussi mes affaires personnelles, ils ont pris l'argenterie que j'avais reçue de ma grand-mère, de main propre, qui était armoriée de ma mère, enfin, puisque je venais de cette famille. Donc, tout. Ils ont vendu des meubles, et alors là, c'était trop. Et j'ai fait un genre de dépression, en fait, parce que je savais plus. C'était une dépression, en fait, mais je savais pas trop ce que c'était. En tout cas, j'étais très mal, très mal. Et je savais plus où me diriger. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une amie peintre, parce que j'avais du talent, et qui m'invitait chez elle pour peindre.
D'accord.
Parce que j'ai toujours eu du talent au niveau artistique. Donc, je peignais chez elle. Et un jour, je lui ai raconté, parce que je taisais tout ça. Je disais à personne cette situation où je me trouvais. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais toujours démunie, que j'avais rien, que j'étais toujours mal habillée, que j'avais rien. Elle ne comprenait pas. Donc, un jour, j'en ai parlé. Elle m'a dit, c'est pas possible, t'es encore sous tutelle, j'avais 25 ans. Alors, elle est allée chez le notaire avec moi. Elle a dû se déguiser parce qu'elle avait peur de mon père.
Oui.
Et enfin, après ça, vous savez, je suis émotionnée par moments quand je parle de mon histoire parce que c'est tellement gros. Parfois, quand je la dis, je suis dans...
Oui, dans l'incrédulité encore de tout ce qui s'est passé.
Oui, encore maintenant. Encore, ouais. Je me dis, comment c'est possible.
Chez ce notaire, alors, vous apprenez des choses, Magda ?
Hein ?
Vous apprenez des choses chez ce notaire ?
Alors, donc, j'ai enlevé ma procuration. Et donc, en fait, voilà, quand on a ratifié... Enfin, comment on dit ça ? Oui, c'est ratifié, ma procuration. Et donc, du coup, j'ai pu récupérer quelque chose de Vienne, en fait. On avait des choses aussi à Vienne, de mon oncle. Mais tout ce qu'il avait pris déjà avant, il avait tout englouti dans son école, où il n'y avait plus d'élèves, d'ailleurs, dans ses enfants et dans sa femme. Il a fait un mariage en carrosse, avec des chevaux. Il a tout dilapidé.
Oui, en fait, il vous a spolié, votre père, en gros.
Complètement. J'ai même pas eu un centime de ça. Alors après, j'ai pu sauver quelque chose à cause de parce que j'ai enlevé la procuration et du coup, il a été dans une fureur noire parce que j'avais fait ça, et que j'avais essayé de sauver quelque chose. Et donc, il a plus voulu me parler. C'est à ce moment-là que cette amie peintre m'a enlevée. Un jour où elle est partie, parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais comme sidérée.
Oui, je savais comprends, où je aller. Comprends.
Et j'étais complètement perdue. Donc, elle m'a enlevée avec sa voiture. Elle avait une Mercedes, d'ailleurs. Elle m'a en pris quelques affaires. Et elle m'a mis dans un appartement à 4-5 kilomètres de là.
Et votre frère dans tout ça, en fait, il était où pendant tout ce temps-là ? En fait, il avait...
Alors, mon frère s'est barré.
Oui.
Quand j'avais 18-20 ans, il est parti aux Canaries parce qu'il s'est fait embaucher sur un bateau pour faire des traversées, pour s'occuper de traversées de bateaux. Et en fait, il n'est jamais vraiment revenu. Il revenait de temps en temps, comme ça, 3 jours. Mais il voulait partir, en fait. Et puis, il a fait des études. Il a pu faire des études en Angleterre, à Plymouth. Il est ingénieur naval. Et après, il a vécu sa vie. Et c'était quelqu'un... Mon frère est très intelligent et très comment dire ça il est très doué dans tout ce qu'il fait. Alors pour juste un peu raccourcir, parce que je sais que c'est long, on est retournés tous les deux parce qu'on s'entendait très bien étant enfant et jeune. On s'aimait, en tout cas on s'entendait, on se comprenait pas toujours, mais on s'aimait. Et donc du coup il est parti, il a vu la situation, je crois qu'il a pas voulu s'en mêler, et surtout il a eu peur, je pense, de tout ça, parce qu'il a été aussi lésé autant que moi.
Oui.
Et il a aussi subi des choses de mon père qui intervenait dès qu'il avait une fille auprès de lui.
Donc c'était un horrible personnage, ce père.
Mon père draguait la fille de quelle horreur. Et donc chaque fois, il y avait des... mais il était malade, mon père.
Oui, alors, oui, mais bon.
J'avais une colère, mais une colère telle que je ne rêvais que de... que l'un des rêves qui me revenait, qu'il soit par terre et qu'il y ait trois personnes qui le maintiennent par terre. Mais j'ai jamais voulu le dénoncer. Parce que je savais que ça allait le tuer, parce qu'il croyait dans tout ce qu'il faisait. C'était un parano, en fait.
Oui, il aurait tout de même, avec du recul, il aurait tout de même mérité que vous le dénonciez, Magda, parce qu'il vous a maintenu dans un isolement spirituel,
oui,
comme affectif. Hein, il a tissé une toile autour de vous. Votre frère, lui, on sent qu'il a bien perçu le danger que représentait son père,
oui,
et qu'il a pris la poudre d'escampette, en fait, votre frère.
Oui, mais alors le gros souci, c'est que au moment des restitutions en 90, on est retournés tous les deux ensemble parce qu'il y avait les restitutions avec Havel et tout ça. Enfin, vous connaissez peut-être
en Tchécoslovaquie.
En Tchécoslovaquie.
Oui.
Donc on est retournés ensemble, mais moi j'avais deux enfants ici, donc ils étaient scolarisés ici.
Oui.
Donc je faisais des allers-retours, mais on s'entendait bien pendant 10 ans.
Mmh.
Et mon frère, peut-être, il a toujours espéré que je m'installe là-bas. Mais on n'avait pas de moyens au départ, c'était très compliqué la restitution. Au début, on nous a rendu beaucoup de choses, mais pas forcément beaucoup d'argent. C'était des terres, des châteaux à moitié en ruine, et puis surtout un grand immeuble, en fait, à Prague.
D'accord.
Et tout ça, mon frère... Au début, j'avais un avocat, j'ai pris un avocat, et lui aussi. Puis il m'a dit, encore une fois, répétition, il m'a demandé, mais c'est pas la peine, fais-moi une procuration.
Je vais m'occuper de tout.
Une procuration générale, et oui. Rebelote, il s'est passé exactement la même chose.
Qu'avec votre père ?
Oui.
Il vous a piqué aussi des biens ?
Entièrement. Oh. Il n'a rien partagé, il a dit tu n'as aucun droit, parce que comme moi j'étais restée à moitié en France puisque mes enfants étaient là, je me disais toujours que bon, il allait faire ce qu'il fallait et puis qu'on allait voir ensemble. Et puis un jour il m'a dit tu n'as aucun droit, et puis maintenant ça fait quoi, 10 ans, il est en Thaïlande, en Madagascar, enfin ailleurs dans le monde entier.
Oui, parce que c'est bien là, Magda.
Et puis il gère à distance.
Ben oui, parce que c'est bien là, ils ont dû, avec la Tchécoslovaquie aujourd'hui qui est devenue un pays démocrate, c'est bien là, il doit avoir beaucoup d'argent, ce frère, finalement.
Beaucoup, parce qu'il y a un immeuble de 35 appartements.
Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ?
Et il me donne, de temps en temps, il m'envoie 300 euros.
Sympa. 300 euros ?
300 euros de quelques fois. Et il voulait me faire... Enfin, vous savez, c'est très dur, parce que jusqu'à présent, j'avais pris un avocat, et il s'est mis en colère en me disant « Qu'est-ce que tu oses faire ?» Et on va s'arranger. Il s'est rien passé.
Et aujourd'hui,
je demande un rendez-vous, il n'est pas là. Il ne me répond pas. Alors j'ai un ami qui essaye de faire la relation entre, parce que je crois qu'il est parti à Madagascar là, et il n'arrive pas à le joindre. Et il coupe avec toutes les personnes avec qui j'essaye de négocier avec lui.
Et est-ce que vous avez encore moyen aujourd'hui de l'attaquer ? Il est attaquable ? Vous pouvez récupérer des biens aujourd'hui quand même, vous pensez ?
Il y a plusieurs sur le... Oui, il y a encore... Il y a tout cet immeuble. Il a vendu un château de ma grand-mère. Il a un autre château, mais qui est en restauration. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout parce que je l'ai aidé pendant 10... Ce qui m'a le plus... scandalisé, c'est ce que je l'ai aidé pendant 10 ans en faisant des allers-retours. Financièrement, j'ai mis mes amis dans l'affaire qui ont un peu financé, qui ont fait une association. association d'entraide. Jamais je n'ai pensé, au début, en tout cas pendant 15 ans, 10-15 ans, qu'il allait me faire ça.
Vous aurez tout le long de votre vie été arnaqué par les hommes. Hein. Ouais, spolié.
Par les communistes d'abord, puisqu'on nous a tout pris, après par mon père, et puis maintenant par mon frère.
Par votre frère. Vous devriez écrire un livre de tout ça.
Je suis complètement... Pardon ?
Vous devriez écrire un livre de tout ça, c'est Yvonne au 739-21.
J'ai écrit un livre qui s'appelle La poupée désarticulée.
Ah, d'accord, vous avez écrit un livre qu'on peut trouver où, en fait ?
Chez l'Armatan.
D'accord. Et il est sorti quand, ce livre ?
En 2005, en 2005-2006.
Et comment s'appelle-t-il, ce livre ?
C'est passé, ça. Hein ?
Comment s'appelle-t-il, ce livre ?
La poupée désarticulée.
D'accord. Pourquoi la poupée désarticulée ?
Chez l'Armatan. Bah, parce que j'étais désarticulée, pour moi.
Oui.
C'est un peu mon histoire, en fait, que je raconte. Mais avec l'histoire aussi de l'Europe centrale et de ma famille. Parce que ma mère était... Et moi, ce qui m'a un peu maintenue sur cette terre, en fait, parce qu'il fallait bien que je traverse, et je ne peux pas dire les détails, mais c'est l'image de ma mère. Parce que ma mère était une femme extraordinaire, non seulement d'une beauté merveilleuse, mais aussi d'une gentillesse extraordinaire. Et elle est décédée, elle avait 29 ans.
Et vous en aviez 3, hein, c'est ça, vous m'avez dit. Vous
aviez 3 ans. Moi, je n'ai rien d'autre que des images. Mm-hmm. J'avais 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, mais j'ai rencontré des amis à elle après coup, parce que je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle. Mais j'ai des photos et des bibelots, c'est tout ce que j'ai de tout ce tsunami dans ma vie. J'ai que des photos et quelques bibelots.
On va marquer une dernière pause, si vous le voulez bien, Magda, avant de conclure ensemble. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ? À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Mercedes-Benz.
Quand je dis que je suis chauffeur de taxi et que je conduis la nuit, les gens pensent que je vis en décalé. Ils ont raison, j'ai un temps d'avance. C'est pour ça que je conduis le nouvel EQV. Le 8 places 100% électrique par Mercedes-Benz.
Avec sa motorisation 100% électrique, ses 8 places et jusqu'à 351 km d'autonomie, ouvrez la voie. Découvrez-le sur mercedes-benz.fr/vans. Mercedes-Benz. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est minuit 26 et vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Magda, aujourd'hui, ce passé difficile de ne pas y penser, bien évidemment, puisque vous êtes encore dans la bataille avec ce frère. Mais est-ce que vous avez tout de même espoir de... Vous avez espoir de quoi, finalement, que votre frère...
Non, le souci, j'ai toujours l'espoir de retrouver mon frère et qu'il m'explique. Je cherche toujours des explications.
Mais vous pensez réellement que, par rapport à la manière dont il se comporte, qu'il vous donnera des explications à un moment ?
J'ai toujours cet espoir-là, puisqu'on a vécu 20 ans ensemble, on s'entendait bien, qu'il n'y avait pas de raison, si ce n'est sans doute l'appât qu'il a du gain ou de ses affaires, et la peur que je vienne en République tchèque, parce que derrière cette histoire, il y a celle de mon père, mais je ne l'ai jamais dénoncé en public, donc, je parle à la radio, mais c'est sûr, mais...
Il n'avait pas dit son nom.
Cet espoir-là, parce qu'il avait pris mes enfants comme les siens, il avait été très gentil pendant une dizaine d'années.
Oui, mais enfin il vous a arnaqué pendant 10 ans, donc il peut être gentil, c'est la moindre des choses. Vous voyez hein les escrocs, généralement, sont de très gentilles personnes. Hein tant que tout roule comme ça et que vous n'étiez pas regardante sur toutes les opérations qu'il faisait. Finalement, ouais. il vous a trompé, ce frère aussi.
Mais c'est pour ça que je ne peux pas laisser non plus l'affaire, les choses comme ça, parce que ça reste dans ma vie forcément au quotidien, et surtout ma fille est tombée malade, mon fils il est en Belgique, mais c'est dur. c'est très dur, il a un petit garçon, mais c'est difficile et je ne peux pas les aider, je ne peux rien leur donner, et rien que ça.
Mais vous savez, je crois...
à ses enfants, et je ne peux même pas aider mes enfants.
Et je crois de toute façon qu'il faudra que vous alliez au bout de cette bataille avec votre frère, rien que vis-à-vis de vos enfants. En tout cas, Magda, merci. Oui. Merci mille fois de nous avoir raconté cette histoire ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, n'hésitez pas à me tenir au courant hein, si les choses bougent, d'accord ?
Oui, merci Olivier.
Mais je vous en prie.
Voilà, c'était un résumé.
Oui, je me doute.
Je ne peux pas vous dire.
Écoutez, je vous en prie, et pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, on doit pouvoir encore trouver la poupée désarticulée sur Internet.
C'est l'armatan, on l'a trouvé.
Bon, très bien.
Directement là-bas, et voilà.
Je vous embrasse, Magda. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, Olivier. Au revoir. Au revoir.